convoitise du duc. Si Pierre et Anne de Beaujeu maîtrisent le roi et son armée, Louis d'Orléans peut quant à lui compter sur de nombreux soutiens parmi les seigneurs d'Angoulême, de Bourbon et d'Albret, mais aussi parmi toute une part de la noblesse exaspérée par les prétentions des Beaujeu. Pour mener à bien son entreprise, il prétexte une tentative d'enlèvement contre sa personne qui lui permet de quitter la cour à grand fracas. Il fuit dans la précipitation sur le dos d'une mule, suivi par l'un de ses proches conseillers. Auprès du duc d'Alençon, qu'il a rejoint dans sa fuite, il se prépare à prendre les armes. Et c'est à Nantes, sur les rivages de la Loire, que la rébellion prend forme. Rejoint par le duc de Bretagne, Louis d'Orléans défie les troupes royales menées par Pierre de Beaujeu à Verneuil, puis à Beaugency, au mois d'août 1485. Le premier épisode de la guerre folle vient alors de commencer. Il est de courte durée pour les partisans du duc d'Orléans, rapidement vaincus par les troupes royales. Mais les coalisés reviennent bientôt en force et opposent au camp de Pierre et Anne de Beaujeu de longues années de lutte. Le 16 décembre 1486, allié à Maximilien d'Autriche, le duc d'Orléans réunit l'armée la plus nombreuse qu'il ait jamais commandée. Outre l'archiduc d'Autriche, Louis d'Orléans rallie à sa cause le prince d'Orange et le roi et les princes de Navarre. Bretagne, Angoulême, Nevers, Dunois et Comminges, nombreux sont les nobles qui se rangent derrière les coalisés. Face à cette énorme machine de guerre qui se met successivement en branle contre l'autorité des Beaujeu, Pierre et Anne cherchent l'apaisement. Mais ils ne l'obtiennent que par la lutte armée qui porte peu à peu ses fruits, au cours des très nombreuses batailles qu'ils doivent mener contre les ligues rebelles. Acculés, les coalisés sont finalement contraints de signer la paix de la Flèche le 4 septembre 1491. Dans cette longue guerre folle, Anne de France est sortie victorieuse. Habile stratège et fine politique, elle a su conserver sa place et son influence auprès du roi son frère, qui lui porte une estime sincère et une affection profonde. C'est sur ses conseils qu'il accepte de revenir sur l'alliance promise à Marguerite d'Autriche pour envisager une union avec la Bretagne. Union qui permettrait de soumettre tout à fait ce duché rebelle qui a causé tant d'inquiétudes à Anne pendant la guerre folle. Si Charles VIII a été marié à la fille de Maximilien d'Autriche, il parvient sans mal à faire invalider cette alliance. Marguerite n'est encore qu'une petite fille avec laquelle il n'a pas encore consommé son mariage. Aussi, l'union promise cède-t-elle la place aux intérêts changeants du royaume et en l'occurrence à la nécessité d'une union avec la Bretagne. Charles VIII n'est pas véritablement disposé à épouser Anne de Bretagne, mais il cède aux prières de sa sœur et consent à la rencontrer le 15 novembre 1491. En matière de politique, et malgré la majorité du roi Charles, c'est encore Anne de France qui tient les rênes du royaume. La dame de Beaujeu gouverne d'une main de fer et dès le 5 décembre, elle annonce aux ambassadeurs étrangers la nouvelle du mariage de son frère, le roi Charles VIII, avec l'héritière du duché de Bretagne, donnant par là un véritable pied de nez à l'empereur Maximilien d'Autriche, auquel la jeune princesse avait d'abord été promise. Le mariage, célébré dès le mois de décembre 1491, scelle la réconciliation de la Bretagne et du royaume, mais assure, surtout à la couronne de France, l'héritage de ce puissant duché. Au premier rang de la cérémonie, c'est Jeanne de France, devenue quelques années plus tôt duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, au décès de son beau-frère Charles de Bourbon, mort sans héritier. C'est elle qui a orchestré l'alliance avec la Bretagne et elle paraît ici, au sommet de sa gloire. Pour Anne de France, le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne marque les derniers feux d'une existence à la cour de France, car le monarque ne va pas rester encore longtemps sous l'égide de sa sœur. Charles a 20 ans désormais, il n'est plus le petit roi inexpérimenté d'alors. Dans la fleur de l'âge, il nourrit à présent des rêves de conquête et de gloire. Réconcilié avec les princes rebelles de son royaume, il règne alors d'une main ferme sur ses provinces. Sûr de son pouvoir, il porte son regard au-delà des frontières et rêve d'une conquête italienne. Par son grand-oncle paternel, René d'Anjou, devenu roi de Naples, Charles a hérité de droits sur la couronne de Naples et il entreprend de les revendiquer. L'expédition est risquée, oui, mais surtout coûteuse. Et Charles doit céder une forte somme d'argent à l'Angleterre et plusieurs provinces à l'Espagne pour obtenir leur approbation. Tandis qu'il se prépare à la guerre, Anne de France s'inquiète. Les provinces que son frère accorde aux puissances étrangères ont été le fruit de longues années de lutte. Avec son mari, Anne de Beaujeu, Anne a bataillé durement pour asseoir l'autorité de Charles VIII. Comment pourrait-elle être enthousiaste à l'idée de cette hasardeuse campagne qui coûte déjà tant au royaume et qui engage un pouvoir royal tout juste établi ? Jusqu'au dernier moment, Anne tente de l'en dissuader. Elle invoque l'intérêt d'un royaume qui porte encore les cicatrices de longues batailles de la guerre folle. Comme elle, Pierre tente de ramener le roi à la prudence, mais rien n'y fait. Charles VIII se laisse bercer par ses rêves italiens et lève une armée pour l'Italie. Pour la première fois, Charles VIII fait fi des conseils de sa sœur et de son beau-frère, mais le duc et la duchesse de Beaujeu n'ont pas pour autant perdu la confiance du roi. À la fin du mois de juillet 1494 et à l'approche de son départ pour Milan, le monarque nomme son beau-frère Pierre de Beaujeu lieutenant général du royaume. Si une part importante de l'entourage du roi l'accompagne en Italie, c'est à Moulins, dans la demeure des Beaujeu, comme je vous le racontais au début de mon récit, que la cour se reconstitue. Anne de France accueille dans son château la reine, Anne de Bretagne, la chancellerie et le grand conseil. C'est avec ces derniers que Pierre dirige désormais le royaume. Pendant une année entière, la cour des Beaujeu rayonne de tout le faste la cour royale qu'elle est devenue le temps de la campagne d'Italie. Protectrice des arts, Anne de France y fait venir de nombreux artistes et son château de Moulins s'embellit chaque jour d'œuvres de grand prix. Depuis leur accession au duché de Bourbonnais et d'Auvergne, les ducs et duchesses de Beaujeu reçoivent à Moulins une cour des plus éclatantes. Anne y accueille en effet les jeunes filles de la noblesse française et des maisons alliées. En tant que fille de France, c'est à elle donc que revient l'éducation des princesses de sang royal. Anne prend sa mission très à cœur et transmet à ses petites protégées son amour du savoir et des arts. Fervente catholique, elle les éduque à la vertu, soucieuse de les préparer ainsi à leur future mission de reine ou de princesse de la chrétienté. Entre les murs du château de Moulins ont été ainsi éduquées les plus grandes princesses de la Renaissance, de Marguerite d'Autriche à Louise de Savoie, qui sera un jour la mère du puissant François Ier, en passant par Philippe de Gueldre ou Marguerite de Bourbon. Si Anne prend sous son aile ces jeunes princesses, elle va jusqu'à organiser leur mariage. Bibliophile avertie, la dame de Beaujeu puise ses principes d'éducation dans les nombreux livres qui composent sa bibliothèque. Avec le château de Moulins, elle a en effet hérité d'une collection d'ouvrages déjà importante qu'elle ne cesse d'enrichir au fil des années. Les manuscrits enluminés, les livres ornés qu'elle commande contribuent largement au renom de sa bibliothèque. Sur les rayons de bois ornés, de lourds volumes sont consacrés à la formation morale et spirituelle et aux différentes branches du savoir. La bibliothèque d'Anne de Beaujeu révèle aussi son intérêt pour l'histoire, car c'est de l'exemple des grandes femmes de France qu'elle s'est toujours inspirée pour tenir son rôle de régente et pour régir la cour. En quelques années, Anne de Beaujeu et son mari ont ainsi fait de Moulins l'une des cours les plus remarquées de la Renaissance et l'un des plus grands centres artistiques et intellectuels de l'époque. Bien après la fin de la campagne d'Italie et le retour du roi en France, la cour de Moulins n'a encore rien à envier à celle du roi Charles VIII. Et le roi séjourne d'ailleurs régulièrement chez sa sœur et se plaît dans cet environnement raffiné où règne à la fois l'élégance et l'esprit. Mais une ombre, cependant, n'aura cessé de planer sur l'existence du sire et de la dame de Beaujeu. Oui, après 25 années de mariage et malgré la naissance de deux enfants, Anne de France n'est pas parvenue à donner un héritier au duché de Bourbon. Charles, le seul fils qu'elle a mis au monde, est mort dans sa 22e année. Anne de Beaujeu a connu la gloire et le succès pendant les trois décennies qu'elle a passées à la cour de France, puis de Moulins. Mais la fin du siècle va se révéler bien plus cruelle. L'année 1498 est d'abord celle de la mort du roi Charles VIII. Ce frère chéri qu'elle avait achevé d'éduquer s'éteint à Amboise après avoir heurté un linteau de pierre dans les galeries du château. Quelques années plus tard, c'est au tour de son mari, Pierre de Beaujeu, de rejoindre la tombe. Malgré la mort de Pierre, Anne de France continue d'administrer son duché de Bourbonnais et poursuit l'œuvre de consolidation qu'ensemble, ils s'étaient efforcés d'accomplir. Là encore, elle se montre une femme de pouvoir qui dirige à merveille les affaires dans l'attente de la majorité de sa fille Suzanne, qu'elle fait épouser par le duc Charles de Bourbon-Montpensier. Comme les nombreuses princesses qu'elle avait accueillies à Moulins, Anne a éduqué sa fille à l'exercice du pouvoir. Le traité d'éducation qu'elle avait rédigé à son endroit devait faire d'elle une princesse vertueuse, courtoise et raffinée. Rapidement privée de son fils et héritier, Anne voulait confier à Suzanne l'héritage de son cher duché. Mais le sort va en décider autrement. Suzanne a toujours été de santé fragile, tout comme les trois enfants qu'elle a mis au monde et qu'elle a vu mourir presque aussitôt. La fille d'Anne de France ne survit pas à leur disparition et disparaît à son tour en novembre 1521, précédant sa mère. Un an plus tard, en effet, à la fin de l'automne 1522, Anne de France quitte ses terres bourbonnaises et la vie. Celle qui s'était fait la mère adoptive de tant de petites princesses s'est retirée de son duché sans lui offrir d'héritier. Elle laisse derrière elle tout un cortège de demoiselles qu'elle a formées à l'amour du beau et du savoir. Parvenues au sommet des plus grandes cours d'Europe, ces reines et ces princesses ne vont pas manquer d'imprimer sur leur terre et dans leur demeure la marque de celle qui était devenue leur modèle à l'aube de la Renaissance, Anne de France.
Europe 1, 15h-16h, au cœur de l'histoire.
Bonjour Aubrey, David Chappie, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour, merci de m'inviter.
Et merci à vous. Dans quelle mesure Anne de France a-t-elle été un modèle pour les princesses européennes au tournant des 15e et 16e siècles? Et pendant combien de temps son souvenir est-il resté vif dans le royaume de France et même au-delà de ses frontières?
Alors Anne de France a eu une très grande influence sur de très nombreuses princesses, dans la mesure où ça a été une femme politique absolument hors du commun. Ça c'est la première chose, et en plus parce qu'elle a éduqué de très très nombreuses petites princesses qui par la suite sont devenues reines ou duchesses, etc., un petit peu partout en Europe, et à ce titre, eh bien, elle a exercé une influence. En plus, comme vous l'avez dit, elle a écrit des enseignements qui sont donc passés par écrit et qui ont été diffusée à travers les cours européennes, et elle est donc restée ainsi dans les mémoires pendant très longtemps, au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle, puisqu'on sait que Catherine de Médicis lisait les enseignements d'Anne de France.
Aubrey David Chappie, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance, qui paraît en poche chez Passé Composé. De son vivant, cette femme, fille et sœur de roi, qui fut quasi régente, était considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de son temps. Pourtant, vous l'écrivez, elle demeure trop peu connue au regard de ce que furent son pouvoir et son influence en France au tournant du XVe au XVIe siècle. Comment vous expliquez cet oubli relatif?
Alors, à mon avis, on peut l'expliquer de deux manières. C'est que Anne de France, bien que surpuissante, n'a jamais agi en son nom. Elle agit au nom de Charles VIII, c'est aussi une femme mariée, donc en fait rien n'est fait véritablement ouvertement, même si tout le monde sait que c'est elle qui gouverne le royaume de France. Ça c'est une première chose. Elle a été aussi éclipsée aussi par la reine Anne de Bretagne, dont le souvenir lui est resté très très vif. Anne de France n'est pas une reine, donc évidemment elle n'a pas cette aura qu'a la reine Anne de Bretagne au même moment qui est sa contemporaine. Et puis enfin aussi, elle n'a pas de descendance. Donc finalement, avec ses enfants et avec sa propre mort, eh bien son action meurt en quelque sorte, et donc elle tombe dans l'oubli.
En couverture de la biographie que vous consacrez à Anne de France, figure un portrait d'elle où elle apparaît les mains jointes. Est-ce que vous pourriez nous la décrire brièvement? Que doit-elle incarner pour ceux qui voient cette représentation, cette toile? Vous écrivez qu'elle souhaite diffuser d'elle-même l'image d'un miroir de vertu et qu'elle veut s'imposer en modèle. C'est cela, non?
Oui, alors elle a les mains jointes, donc évidemment parce que c'est une femme pieuse, c'est une femme de vertu. Elle porte quand même une couronne ducale qui rappelle évidemment son rang. Autour d'elle, il y a des fleurs de lys qui montrent que c'est une fille de France, donc une fille de roi, une sœur de roi aussi. Et elle a un regard relativement autoritaire, donc qui rappelle que c'est une femme de poigne, une femme puissante. Donc elle veut apparaître véritablement comme un modèle, oui, de vertu, un modèle de sagesse, de prudence, et c'est ce qu'elle essaye de faire paraître aussi sur ce tableau, sur ce portrait.
Elle était une femme ambitieuse et influente. Quel type de conseils donne-t-elle à son jeune frère Charles VIII? Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence qu'elle exerce sur lui?
Alors, Anne de France a une influence totale sur son jeune frère parce qu'il est très jeune. Donc, ils sont liés par les liens du sang. Et donc, il y a une affection entre déjà le frère et la sœur. Le frère fait totalement confiance à sa sœur, et donc elle lui donne évidemment des conseils pour gouverner, mais en fait elle a le gouvernement entre ses mains, véritablement. Alors on ne sait pas véritablement ce qu'elle lui donne comme conseil, mais s'il y en a un, c'est certainement qu'il faut se méfier des ennemis, qu'il faut les tenir à distance, et elle se tient toujours aux côtés de Charles VIII pour rester au pouvoir et pour l'aider à gouverner. Donc vraiment la méfiance, et ça c'est quelque chose qui vient aussi de Louis XI en fait, que c'est un principe transmis par Louis XI.
Quelles sont ses principales qualités? alors qu'elle assure la régence du royaume de France avec son époux Pierre de Beaujeu au début du règne du jeune Charles VIII.
Alors Anne de France a finalement de très nombreuses qualités qui font d'elle une grande femme de pouvoir, hein, une des plus grandes femmes de pouvoir à mon avis entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle en France et puis même en Europe. La première, c'est que c'est une femme qui est intelligente. Hein. Elle est douée de ce qu'on appelait à l'époque de la finesse. Hein. Donc véritablement une finesse d'esprit, une finesse politique. Elle sait percevoir les caractères des individus. Elle sait se positionner dans les situations difficiles, prendre les bonnes décisions aussi. C'est une femme courageuse. Hein. Elle sait se battre face à ses ennemis sans perdre la face. C'est une femme très cultivée. Hein. Elle a reçu une excellente éducation aux côtés de sa mère et aussi aux côtés de son père. Alors, elle mêle donc des qualités de tempérament à des qualités politiques et puis aussi, c'est cette femme vertueuse qui a un tempérament très fort, mais qui ne cherche jamais non plus à la vengeance face à ses ennemis. Une fois qu'elle les a vaincus, elle ne cherche jamais véritablement la vengeance. Elle sait, oublier le passé et se servir des qualités des gens.
Aubrey David Chapie, comment décririez-vous la relation qu'Anne de France entretient avec son époux Pierre de Beaujeu ? Les mariages à l'époque sont évidemment des alliances politiques, stratégiques, diplomatiques, économiques. Quel duo, eux, forment-ils ?
Alors, assez paradoxalement, Anne de France et Pierre de Beaujeu forment un couple accompli, un couple qui sait bien gouverner, qui fonctionne bien, en fait. C'est assez amusant parce qu'ils ont quand même plus de 20 ans d'écart. Le mariage est complètement arrangé alors qu'elle est toute petite, vous l'avez dit. Et pourtant, on arrive à un mariage qui fonctionne très bien. Alors, Pierre de Beaujeu, lui, va au conseil où Anne de France, en tant que femme, ne peut pas apparaître. Il la représente là où elle ne peut pas aller et elle le guide, elle gouverne avec lui. Il y a véritablement un gouvernement en couple. Ça fonctionne très bien et cette volonté aussi, il y a une véritable volonté de montrer ce couple qui apparaît notamment sur la façade du château qu'ils font construire à Moulins puisque leurs initiales sont apposées absolument partout. Donc P et A, on retrouve ça partout sur la façade et puis à l'intérieur du château. Voilà, donc on a vraiment la volonté de montrer que l'on gouverne à deux, en couple.
Comme sa mère, Charlotte de Savoie, Anne de France était une grande lectrice, une bibliophile avertie. Je l'ai raconté dans mon récit, mais quel type d'ouvrage trouvait-on dans sa bibliothèque ? Et est-ce qu'on a conservé, par exemple, des ouvrages qu'elle conservait, elle ?
Oui. Alors, en effet, Charlotte de Savoie, qui est assez peu connue, était une grande bibliophile. Et elle possédait donc une grande librairie à la cour de France. Anne de France lit en premier lieu des ouvrages de piété. Parce qu'il faut d'abord qu'elle soit une bonne chrétienne, il faut qu'elle fasse son salut comme toute femme ou même tout homme de cette époque. Voilà, donc elle doit faire son salut, mais elle lit aussi des livres d'histoire et elle lit aussi des ouvrages humanistes de Boccace et puis surtout de la grande Christine de Pisan qui l'influence énormément. Voilà.
Mais Anne de France a rédigé elle-même un traité d'éducation pour sa fille. Quels sont les grands préceptes qu'elle y met en avant ? Au fond, sur quels grands principes se fonde l'éducation qu'elle donne aux jeunes filles des maisons royales ou des maisons alliées ?
Alors, Anne de France, dans ses enseignements, explique principalement comment il faut se comporter à la cour. C'est-à-dire qu'on a des préceptes relativement basiques, pas des préceptes véritablement politiques, mais elle apprend à savoir se comporter, donc à être une princesse vertueuse, c'est toujours la chose la plus importante à ses yeux, une princesse pieuse, mais aussi, elle montre à sa fille, et puis à bien d'autres petites princesses qui vont lire son ouvrage, que la cour est un lieu rude, un lieu de trahison et qu'il faut savoir se méfier. On revient toujours à cette méfiance, savoir être sur ses gardes, ne pas trop parler, écouter plus que parler, mais aussi bien se comporter, se tenir droite. Vous voyez, on a quand même des choses très basiques, ne pas se mettre les mains dans la bouche. Enfin, vous voyez ce qu'elle explique à sa fille, c'est des choses très basiques. Et puis, elle lui apprend aussi quand même qu'il faut qu'elle... qu'elle soit suffisamment bien formée si un jour elle se retrouve veuve et qu'elle doit diriger son duché.
Elle les forme en quelque sorte au métier de reine. Ça a été le cas par exemple avec Anne de Bretagne. Oui. Quel est justement le métier de reine au tournant avant la Renaissance, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle ?
Alors, être reine, c'est évidemment d'abord avoir des enfants pour transmettre la couronne à un fils, avoir un héritier, c'est être une mère, donc c'est toujours guidée sur la voie de la piété, mais c'est aussi la reine, elle exerce une sorte de gouvernement symbolique qui passe par sa présence à la cour, qui passe par des cérémonies où la reine va être admirée, va apparaître comme un miroir, c'est-à-dire un modèle aux yeux de tous les sujets et aux yeux des courtisans. Donc elle forme la reine à savoir bien parler, à savoir bien se comporter. Elle la forme évidemment donc aussi à la culture. Et avant Anne de Bretagne, elle a aussi formé la petite Marguerite d'Autriche qui aurait dû devenir reine de France et qui a été une grande femme de pouvoir au XVIe siècle.
Je mentionnais Anne de Bretagne, l'épouse du roi Charles VIII et belle-sœur d'Anne de France. Que sait-on des relations que ont entretenues les deux femmes ? J'ai montré combien Anne de France avait voulu qu'Anne de Bretagne devienne l'épouse de son frère. Elles s'entendaient bien, les deux belles-sœurs ?
Alors, un certain Brantôme, qui écrit donc à la fin du XVIe siècle, raconte qu'elles s'entendaient très très mal. Mais en fait, si on regarde les lettres que les deux femmes s'envoient, on constate pas du tout d'inimitié, de jalousie. Au contraire, en fait, elles organisent des mariages ensemble. Elles organisent donc des mariages de jeunes filles de la noblesse. Et puis, elles s'envoient des chiens. On a une lettre d'Anne de Bretagne qui dit à Anne de France qu'elle n'a pas encore reçu ses petits chiens et qu'elle voudrait bien, etc. Donc en fait, visiblement, les deux femmes s'entendaient tout à fait correctement et Anne de Bretagne avait pour sa belle-sœur une confiance et aussi un respect dû à son statut de fille de France et aussi à sa connaissance de la cour. Voilà, donc elle lui fait véritablement confiance et elle la respecte alors qu'elle n'est pas la reine de France.
Pour terminer, le château de Moulins où Anne de France résidait est l'un des premiers monuments de style Renaissance érigé dans notre pays. C'est aujourd'hui un musée, le musée Anne de Beaujeu. Anne de France a été une femme entre deux époques, finalement le Moyen-Âge et la Renaissance. Comment elle se situait entre les deux ?
Alors, Anne de France, c'est l'héritière du Moyen-Âge, c'est l'héritière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Christine de Pizan, de ce monde médiéval fondé sur la vertu, la religion, la piété, etc. Et en même temps, elle fait véritablement entrer son duché et puis même le royaume dans la Renaissance en introduisant l'art de la Renaissance à Moulins. C'est vraiment le premier monument Renaissance en France, Moulins. Elle introduit aussi l'imprimerie et notamment elle a un grand intérêt pour le passage des manuscrits aux imprimés, donc elle en commande énormément, donc elle a un côté très avant-gardiste si on peut dire. Donc elle est à la fois véritablement du Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle fait vraiment fusionner les deux.
Merci beaucoup Aubrey David-Chappie de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire d'Anne de France, première femme de pouvoir de la Renaissance. Je rappelle que votre livre Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance, est disponible en poche dans l'excellente collection Alpha des éditions Passé Composé. Et je vous invite à aller visiter le musée Anne de Beaujeu à Moulins, c'est dans l'Allier. Et franchement, ça vaut le détour. Et ensuite, aller jusqu'à Souvigny. Enfin voilà, c'était un très beau périple sur les traces d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voyagez au cœur de l'histoire avec Stéphane Bern chaque jour de la semaine de 15h à 16h sur Europe 1 et donc on le retrouvera aujourd'hui mardi. Nous plongerons avec lui au cœur de la légende du masque de fer. La suite de vos programmes de nuit, c'est la Libre Antenne avec Valérie Darmon que nous allons retrouver dans un instant, juste après Thomas Dutronc et un extrait de son album Il n'est jamais trop tard. Il voulait faire un album plus pop que jazz hein, cette fois-ci et donc issu de cet album, les fameux Petits Bonheurs.
Chercher des formes dans les nuages, ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, plus penser au lendemain, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto. Un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça, le bonheur, tu chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filant au mois d'août, allumer le feu, cheminée, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main, se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h, si c'était ça. Le bonheur, rien qu'un instant, un coup de cœur, y'a tant de larmes, tant de malheur, laisse pas passer les petits bonheurs. Juste un instant, un coup de cœur, et attends de larmes, tant de malheur, laisse pas passer, et les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, baiser volé, au fond la nuit, ce n'est que ça. Petit tour, et puis s'en va.
Thomas Dutronc a fait son grand retour en septembre dernier avec cet album Il n'est jamais trop tard, et sur lequel figure cette chanson Les petits bonheurs. Et notez que sa tournée commencera au mois de février. Il passera notamment par Lille, Dole, Cannes, Rennes, voilà, entre autres. L'heure est venue maintenant de retrouver la libre antenne d'Europe 1, nouvelle diffusion, avec celle qui vous accueille les vendredis, samedis et dimanches. Entre 22h30 et 1h du matin, c'est Valérie Darmon.
Bonsoir Francine.
Mon Dieu, bonsoir. Bonsoir Valérie. C'est un immense plaisir de vous avoir ce soir. Juliette m'a appelé tout à l'heure en me disant que j'allais être à la libre antenne. J'y croyais.
Vous n'y croyez pas, c'est ça? Mais chose promise, chose due. On s'est parlé quelques instants la semaine dernière. Je vous avais dit que le rendez-vous était pris. Et nous, quand on dit quelque chose, eh bien, on le fait, évidemment. Ah. Et donc, on vous a rappelé, comme prévu, pour poursuivre votre récit. Ben oui.
C'est une immense joie en ce vendredi soir, d'abord, de vous avoir, Valérie. Et toute l'antenne, et Juliette, mille merci, et Olivier, que j'ai eu déjà depuis... Olivier, pas longtemps non plus, il y a longtemps. Donc merci notamment à vous
plaisir.
Trois et aux autres personnes.
Et aux auditeurs de la Libre Antenne qui vont vous écouter ce soir, et qui vont peut-être d'ailleurs vous aider, soit avec des échanges d'expériences, soit avec des témoignages, soit avec une parole encourageante. Alors, je recontextualise un tout petit peu ce dont vous vouliez nous parler. Je crois que vous vouliez nous parler de la solitude, parce que vous avez perdu votre compagnon, qui était l'homme de votre vie, juste avant le Covid ou pendant le Covid. Il a été fauché par une crise cardiaque devant vous. Il a lutté pendant une heure aux urgences, mais ça n'a pas suffi. Je sens encore votre émotion, effectivement, Francine. Vous avez 62 ans, je crois, dans mon souvenir. Hein. C'est ce qu'on s'est dit la semaine.
Oui, je viens de les avoir le 19 octobre dernier.
C'est ça. Hein. Et depuis, vous souffrez d'une grande, grande solitude. C'est ça. C'est pour ça que vous nous avez appelés, me semble.
Oui, c'est ça. Je vous avais appelé par rapport à ça. J'ai fait le deuil du fait de ne pas avoir d'enfant avec ce merveilleux compagnon, d'une endométriose sévère. C'est ça qu'on avait été coupé un petit peu, je vous avais parlé.
Exactement, je me souviens que c'était à ce moment précis de votre récit qu'on avait dû s'interrompre, puisque c'était la fin de l'émission. Et oui, et vous veniez d'être diagnostiquée, hein, porteuse de cette endométriose, et donc vous avez renoncé à essayer de faire un bébé, et vous ne vouliez pas adopter, il me semble.
Voilà, j'avais 48 ans, j'en ai 62 aujourd'hui. Et un chirurgien m'a sauvé la vie par rapport à une endométriose sévère qui n'avait pas été diagnostiquée. J'avais 35 ans, que j'avais des souffrances à l'époque. J'avais des souffrances et puis on n'avait pas diagnostiqué mon endométriose. C'est un chirurgien, j'avais 48 ans, grâce à ma gynécologue qui m'a suivi pendant quelques années, qui m'avait conseillé la procréalement assistée à 48 ans. J'étais pas très chaude. J'avais suivi un petit peu son avis. C'était une gynécologue qui avait eu son cinquième enfant naturellement à 53
ans. 53 ans, voilà, une grossesse tardive.
Une gynécologue. Ouais. Et elle m'avait dit, Madame Bécourt, vous avez 48 ans. Je vous ai vu il y a 6 ans. Allez. Tentez le coup, c'est votre dernière chance, vous êtes encore bien, Madame Bécourt, et tentez la médicalement assistée.
La PMA,
etc.
Oui.
La PMA, parce que je ne voulais pas adopter, elle le savait, etc. Elle m'a dit, c'est votre dernière chance, vous êtes encore très bien, Madame Bécourt, etc. Vous travaillez, vous êtes très bien. Je m'étais dit, avec mon compagnon qui ne parlait pas beaucoup, j'avais dit, allez, je me donne 3 mois, parce que moi, je ne voulais pas faire le parcours du combattant, comme on dit. Non. Même si on ne le dit pas comme ça, c'est un parcours du combattant que de faire le...
Toutes les piqûres hormonales, tous les rendez-vous.
On maltraite un petit peu
son corps aussi, même si c'est pour une bonne cause.
Tout à fait. Tout à fait. À 48 ans, même si elle m'avait convaincue, entre guillemets, je m'étais dit, je me donne 3 mois, ça sera un miracle. Et s'il n'y a pas de miracle, eh bien tant pis. Parce que ça fait des années que j'attendais un enfant avec mon compagnon. Et puis, on avait fait, entre guillemets, le deuil. Lui, il ne parlait pas beaucoup. Et on voulait que le nôtre. Et elle m'avait convaincue. J'avais quand même 48 ans. C'est quand même tard.
Hein. Oui, c'est tard.
C'est quand même et tard donc, pour me convaincre moi-même. Bon, j'ai dit, bon, allez, je vais tenter le coup. Donc je fais le protocole. Et puis... alors la dame qui fait l'examen, elle m'avait vu un petit poids, elle dit, vous avez comme un petit poids à l'ovaire droit, on commence les investigations, Madame Bécourt, et vous avez un petit poids à l'ovaire droit. Ah, je dis, ah bon? Et puis elle dit, soit vous pouvez l'enlever, on commence les investigations, c'est pas grave du tout, c'est un petit poids.
C'était bénin.
Elle peut rester comme ça pendant des années, soit vous l'enlevez, soit on continue les investigations pour avoir un enfant. Madame Bécourt, j'avais quand même 48 ans, vous imaginez le stress que ça engendre un petit peu. Donc un petit poids à l'ovaire droit, j'avais jamais été opérée de ma vie, elle me dit, vous faites opérer Madame Bécourt, ou alors on continue, pour tout laisser, c'est rien du tout. Bon, mais moi, j'entamais la
PMA.
La PMA vraiment anxieuse, je m'étais donné 3 mois, et je me suis dit, si ça commence comme ça, on va m'enlever le petit poids. Comme elle me suggère de le laisser tous les 6 mois, je ne voulais pas avoir une petite embrouille dans ma tête ou dans mon corps. Hein.
Vous vouliez faire les choses correctement, Francine,
voilà.
C'est ça.
Voilà, je voulais faire les choses correctement. Donc un petit poids, elle dit, vous pouvez l'enlever, ou alors... on continue tous les 6 mois, on va le surveiller, votre petit poids. J'ai dit, on va l'enlever tout de suite. Donc, le rendez-vous a été donné à un chirurgien. Et le chirurgien, il était très bien. Et puis, je lui ai parlé pendant une heure. Pendant une heure, j'ai discuté avec lui. Sauf que j'avais 33-34 ans. Quand j'avais rencontré mon compagnon, j'avais eu des douleurs diffuses dans mon ventre. J'avais fait une échographie pelvienne à l'époque. Et on avait dit, c'est dans votre tête, vous avez mal au ventre.
Il n'avait rien vu à l'échographie. Vous n'aviez pas fait d'IRM ni de scanner à ce moment-là, juste l'échographie.
J'aurais dû pousser plus loin. Mais comme la dame m'a dit, rhabillez-vous, vous n'avez rien. Et mon médecin traitant, j'avais 33 ans, j'en ai 48 à l'époque, donc il m'avait dit « rhabillez-vous, vous n'avez rien ». Donc à l'époque, j'étais vraiment choquée, et mon médecin traitant m'avait dit ça, j'avais demandé une échographie pelvienne, « rhabillez-vous madame, vous n'avez rien ». Elle m'avait fait l'échographie du ventre, et bon. C'est moi qui avais demandé l'examen.
Oui, oui.
Et donc j'ai dit, tout le monde a raison.
Vous êtes plié à l'avis des sachants, à l'avis des médecins.
Voilà.
Et puis à l'époque, on parlait pas d'endométriose non plus.
Hein. Voilà. Hein, vous me l'avez dit, Valérie, vous m'avez dit la dernière fois, on ne parlait pas d'endométriose. Donc je peux croire à l'erreur médicale ou quoi que ce soit. Toujours est-il qu'après mes douleurs diffuses, pendant ce temps-là, j'avais 33 ans... 34 ans, et puis après, ça s'est passé. Et donc, je me suis dit, tout le monde a raison, c'est dans ma tête. Mes douleurs diffuses pendant 6 mois ou 1 an, c'était dans ma tête, sauf que c'était dans mon ventre. Puis alors, moi, j'avais bien compris ça. Et puis après, ça s'est tassé, entre guillemets. Mais moi, je ne savais pas à l'époque.
Jusqu'à la PMA et jusqu'à ce qu'on découvre donc ce fameux petit pois à l'ovaire droit.
À l'ovaire droit, exactement. Le médecin, le chirurgien m'a dit, madame Bécou, on va faire le contrôle total, on va faire le contrôle, et vous inquiétez pas, ça va se passer. Et puis finalement, j'étais opérée avec des souffrances atroces, et puis il m'a sauvé la vie. Et quand je me suis réveillée à 48 ans, finalement, il m'a enlevé le petit pois, et puis finalement, il avait soupçonné, évidemment, il m'a parlé d'endométriose sévère à l'entretien. Et effectivement, c'était à 2 mois après, j'étais décédée. Hein, donc,
Ah oui, alors que vous n'aviez pas de souffrance à ce moment-là.
Ah non, j'avais plus de souffrance à 48 ans. Mes souffrances diffuses, totalement sournoises, elles étaient à 33 ans.
Et donc, vous n'aviez aucun moyen de dépister l'endométriose quand vous arrivez à 48 ans. Vous n'avez pas de... Bon, vous êtes en préménopause quasiment, peut-être, je ne sais pas. En même temps, si vous proposez la PMA, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais, et pas de douleur. Donc, ça veut dire qu'on peut souffrir d'endométriose sans avoir de symptômes.
Tout à fait. Et à 33, 34 ans, pendant 1 an, j'ai eu des douleurs très sournoises, dans le ventre. Je travaillais, mais c'est comme si j'avais mes règles. J'avais une préparation à mes règles pendant un an.
Des spasmes.
Qui m'empêchait pas de travailler. Qui m'empêchait pas de travailler. Et j'en avais parlé parce que j'ai trouvé ça bizarre que j'avais des douleurs sournoises au ventre, mais c'était pas fulgurant. Et après, le chirurgien m'avait expliqué, comme j'étais employée de maison et j'avais un travail physique. Et à l'époque, donc du coup, comme je bougeais beaucoup, les douleurs étaient très diffuses. En bougeant tout le temps, les douleurs étaient diffuses. Et
vous sollicitiez les muscles, en fait. Il pensait que vous sollicitiez trop les muscles de votre ventre, etc. Alors qu'en fait, c'était de l'endométriose qui s'installait. Et donc, ce chirurgien, il vous opère. Du coup, il vous enlève les ovaires, j'imagine, ou seulement l'ovaire droit.
Voilà. Il m'a dit, je vais faire le contrôle technique en riant. Et j'ai dit, je lui ai dit, je me souviens bien, à 48 ans, je dis, docteur, vous savez, je suis contente de vous voir. La voix tremblotante. J'ai dit, vous savez, quand je fais pipi, j'ai des caillots de sang noir.
Ah oui, donc
c'est là qu'il m'a parlé de...
L'endométriose.
Il m'a pas fait peur. Il m'a dit, on va faire le contrôle technique, madame Bécourt. Je vous enlève votre petit poids et on va faire le contrôle technique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un terme comme ça. Enfin, on va faire le petit contrôle.
Mais en tout cas, il y avait quand même, Francine, des symptômes. Parce qu'il y avait quand même ces caillots. Voilà, il faut quand même consulter dès qu'il y a des symptômes de ce type, de toute façon.
Voilà.
Donc là, vous renoncez évidemment à la PMA, puisque sans ovaire, c'est pas possible de toutes les manières. Vous êtes déjà, même si ça avait fonctionné, en grossesse très tardive. Puis avec endométriose, souvent c'est compliqué. C'est pas impossible d'avoir des enfants, bien évidemment, mais parfois ça peut être aussi compliqué. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à l'adoption, Francine, si vous souhaitez partager ça avec nous?
C'est ce que m'a dit Juliette, mais moi et mon compagnon, on voulait notre enfant à nous. On voulait notre enfant, on voulait un enfant, on s'est rencontrés, j'avais 33 ans, il avait 35 ans, l'homme de ma vie qui est mort sous mes yeux là. Et on voulait notre enfant à nous, sinon rien. Et,
C'était clair pour vous deux. Parce qu'il y a, il y a tellement d'enfants qui ont besoin de vrais parents qui s'aiment. Est-ce que c'est être parent? J'entends bien sûr votre désir d'enfant, hein, évidemment. Hein. Est-ce que c'est être un parent génétiquement parent ou est-ce que c'est celui qui élève l'enfant?
Le nôtre, ouais. Valérie, le nôtre. C'était le nôtre ou rien. Et nous, c'était sacré. C'était, on en voulait qu'un ou une. À 33 ans, une 8, 35 ans, c'était notre enfant ou rien. Ou rien. C'était notre enfant. On n'a pas été compris pour ça parce que. On était deux solitaires tous les deux. Vous savez, Valérie, on a eu une enfance particulière tous les deux. Mon compagnon avait des parents qui avaient une très. Son père et sa mère avaient un très bon milieu, on va dire, et moi, d'un milieu très, on va dire, très défavorisé. Enfin, très défavorisé.
Modeste.
Donc, mais on s'est rencontrés, mais, et lui, il avait souffert dans son enfance, même dans son milieu très privilégié. Ses parents travaillaient beaucoup, et lui, il avait été indépendant très tôt, à 13 ans, il a travaillé à 13 ans et il trouvait des petits jobs pour pouvoir se payer sa moto. Il rêvait d'une moto et ses parents en Belgique, c'était belge mon compagnon, et ses parents ils disaient c'est des crapules en moto, on te payera jamais, ils avaient les moyens, on te payera jamais une moto. Et alors à 12-13 ans, il a commencé à bosser comme un fou et à la majorité... Voilà, économisé sous par sous. Il a travaillé dans des abattoirs, il a travaillé au stand, il a travaillé comme un fou pour se payer avec son argent en espèces belge à l'époque. Enfin, et il a payé sa moto, sa petite moto.
Très déterminé, votre compagnon.
Ah, complètement.
Un monsieur très déterminé.
Vous imaginez qu'à 13 ans, il travaillait aux abattoirs.
Mmh. Ah oui.
Et ses parents avaient de l'argent. Ils avaient dit, tu veux ta moto, tu travailles. Donc, il avait bossé comme un fou. Et sa sœur, qui a 6 ans de plus que lui, qui est à la retraite maintenant, que je suis allée voir le week-end dernier, sa sœur, Henriette, que je vais voir rarement, et elle avait un petit peu, elle était toujours un petit peu en décalage avec son compagnon. Elle, en Belgique, elle avait des tantes et des oncles qui avaient de l'argent. Et mon compagnon, il n'avait pas de tantes et d'oncles. Lui, il avait dû bosser à 13 ans.
C'est-à-dire qu'elle était un petit peu privilégiée et lui pas.
Ah, complètement.
Hein, c'est ça.
Complètement. Complètement par rapport à lui. Avec des parents qui avait de l'argent pourtant, hein, et lui, il était un peu laissé pour compte, et à 13 ans, il a dû bosser, parce qu'il avait son rêve de s'acheter sa moto, et il n'avait pas d'argent.
Et vous, Francine, alors, votre parcours dans votre vie familiale?
Alors, moi, dans ma vie familiale, et c'est pour ça qu'on s'est bien compris, il a été malheureux dans son milieu très riche. Il a eu des gens qui s'occupaient de lui tout jeune, qu'il a considéré comme ses parents parce que ses parents travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas le temps pour lui. Il a été bien malheureux quand même, hein. Il m'a raconté son parcours malgré qu'il avait des parents.
Oui, mais vous savez, connaissez l'adage qui est si souvent usité, voilà. C'est l'argent ne fait pas le bonheur. Alors il en faut un minimum pour être quand même relativement serein, mais c'est vraiment tout pas tout l'argent fait. Qui fait le bonheur, ça c'est certain.
Et lui, il avait été élevé par des par des gens, une nounou très très humble, très 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 gentil et qui faisait de la cuisine, alors que ses parents n'avaient pas le temps. Et ses nounous, c'était comme sa maman.
Ouais,
il m'avait raconté
maternante.
Ça à l'époque. Mmh. Voilà, très maternante. Et moi, quand il m'a rencontrée, je m'occupais des enfants, des autres, à domicile, à Lille. Lui était belge. Hein. C'est une amie qui nous a fait nous rencontrer. C'était extraordinaire. Et sa sensibilité à lui, on s'est complètement rejoints. Et c'était une histoire formidable. C'était un homme formidable, hyper sensible, etc. Et qui me comprenait à 200%, très, très maternante, très gentille, etc. Malgré que je n'avais pas d'enfant. Hein. Et une hypersensibilité, justement, je n'avais pas d'enfant. Et lui, il a compris à 200% quand je lui racontais mes journées avec les enfants des autres à domicile. Je travaillais à domicile. Et il me rejoignait toujours à 200%. Il était ingénieur en électricité, ce qui n'avait rien à voir avec moi. Et moi, quand il me racontait son amour pour son métier, moi, je le comprenais à 200% et on était en symbiose tous les deux. C'était une histoire extraordinaire. Je mets des majuscules partout. Valérie,
c'est un grand cadeau de la vie, hein, de vivre ça dans une vie, et vous êtes restés des années ensemble.
Des années ensemble.
Vous vous êtes trouvés. Tout le monde ne trouve pas sa moitié.
Mon Dieu. Et maintenant, je dis, tout le monde ne se trouve pas sa moitié, même sans enfant. Mais c'était extraordinaire. Notre relation était extraordinaire. Je devrais vous parler, je devrais être en Bretagne maintenant, parce que quand il est décédé, on avait un projet de vie, de notre retraite ensemble en Bretagne. On devrait être du côté de Cancale, en Ille-et-Vilaine. J'y serais peut-être certainement au lieu de vous parler.
Vous l'avez pas poursuivi ce projet seul? C'était trop dur pour vous?
Non, c'est trop dur pour moi d'aller en Bretagne. On avait des souvenirs merveilleux en mobilhome pendant des années. On allait en moto. C'était un amoureux de la moto. On avait une Goldwyn, pour vous dire. Mm-hmm. Une Goldwyn merveilleuse. Une Goldwyn. C'était formidable.
Donc vous êtes restée dans le lieu que vous avez partagé ensemble,
ouais,
Francine?
Oui, voilà. Et là, alors que je vous parle, grâce à une amie, une petite dame portugaise qui fait des ménages aussi comme moi, qui m'a poussée un petit peu, elle m'a dit, je connais un monsieur auto-entrepreneur qui va te refaire ton appartement, Francine. Même si tu ne déménages pas, ton projet il est avorté, tu n'iras jamais en Bretagne, tu ne vas jamais déménager. Elle avait compris. Et il y a deux, trois ans, après le Covid, au bout de 2 ans, elle m'a dit, je connais un monsieur, il va te refaire ton appartement, tu as une assurance vie, tu refais un appartement magnifique. Et je l'ai écouté. Un peu la mort dans l'âme, parce que moi, je devais être en Bretagne. Mon cœur et ma tête étaient en Bretagne, et mon compagnon était mort. Et vous imaginez, dans mon petit HLM ici à Lille, c'était terrible, c'était horrible. Et alors, je l'ai écouté. Et puis, le monsieur est venu, un auto-entrepreneur, il m'a fait un appartement juste sublime. Alors, je vous parle, Valérie, et j'aurais envie... Je vous prends maintenant, je vous vais à l'antenne. Et s'il y avait Juliette, Olivier et vous, Valérie, si on prend date ce soir, on est le 14 novembre.
Oui.
Si vous pouvez venir chez moi, vous prenez un contact avec Valérie et Olivier.
Oui.
Olivier qui est formidable, que j'ai eu au téléphone. Vous êtes merveilleuse avec Juliette.
Nous, c'est Nicolas.
Et vous venez. Je vous invite.
C'est adorable.
Non, mais c'est pas adorable. C'est juste parce qu'on a l'antenne avec plein de gens qui nous écoutent, mais c'est pas grave. De tous les témoignages, de toute la gentillesse que vous avez toutes les trois, même avec Juliette, vous venez chez moi avec Olivier, vous, Valérie et Juliette. Vous venez chez moi. Je vous invite à Lille.
C'est très très gentil. En tout cas, Francine, ce que j'entends dans votre voix, c'est que ce renouveau dans votre appartement, l'appartement que vous avez partagé pendant tant de temps avec l'homme que vous aimiez, c'est comme une nouvelle vie quand même. Ce qui prouve bien que notre intérieur à nous, c'est l'intérieur dans lequel nous vivons aussi. Hein.
Complètement.
Comme s'il y avait eu un nouveau vent qui s'était mis à souffler là pour vous emporter quand même vers un avenir.
Bien sûr. Parce que je suis une battante. Parce que même si j'ai l'air d'avoir une jolie voix, je suis passée par des phases
difficiles.
Je suis une hypersensible. J'ai un petit bouquin sous les yeux. Je suis une hypersensible.
Ouais.
Les hypersensibles, comprendre et maîtriser ses émotions. J'ai acheté un petit livre ici. Tout est exacerbé quand on est une hypersensible. Et moi, je suis une hypersensible. Évidemment, j'étais déjà une hypersensible avant de rencontrer mon compagnon. Et maintenant, j'ai une hypersensibilité extraordinaire. Et les gens ne comprennent peut-être pas, à part vous, peut-être Valérie.
En tout cas, il fallait aussi le temps du deuil.
Bien sûr. Et le temps du deuil, il est long, il est terrible. Hein. J'ai fait partie des groupes de deuil.
Ah, vous avez participé à des groupes de parole pour vous aider.
Mon Dieu, oui, heureusement. Je me suis accrochée à ça 6-7 mois après le Covid, parce que c'était une période terrible. En plus, j'étais toute seule,
isolée.
J'ai pas de famille.
C'est ça. Ah, vous n'avez pas de famille,
Francine? Ah non, j'ai pas de famille du tout. J'ai pas de famille du tout. J'ai une histoire, ça c'est trop long à vous raconter, Valérie.
Vous avez des amis?
Ma mère est vivante. Je vais vous raconter, enfin, je peux résumer. Ma mère est vivante, elle est née le 23 octobre 1937. Ma mère est morte dans mon cœur depuis... les auditeurs vont me comprendre. J'ai eu une mère indigne, un père hyper indigne, et ma mère est indigne. Et je travaillais au service à la personne avec des personnes âgées à domicile. Et depuis 2 ans, j'ai une maman de cœur qui est née. Ma mère est née le 23 octobre 1937. Et ma maman de cœur, chez qui je fais le ménage, elle est née le 28 octobre 1937, quelques jours après ma mère. Et c'est ma maman de cœur maintenant. Et je vous le dis à l'antenne, et j'en suis fière, et j'ai trouvé une maman de cœur. J'ai une sœur de cœur, j'ai des amis de cœur, des amis formidables.
Vous êtes créé une famille de cœur.
Voilà, mais je vous l'avais dit la dernière fois, famille de cœur, ça n'a pas de prix. Et cette dame-là, elle est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ma maman de cœur. Voilà.
Et avec votre maman, vous n'avez plus de contact?
Non, parce que quand je l'appelle une fois par an, elle est complètement indifférente, mais c'est une histoire compliquée, comme plein de gens. Hein. Je suis pas la seule. Et j'ai une grande tristesse. Et puis je me fais beaucoup de mal depuis des années à m'accrocher à ma vraie maman, qui est née à quelques jours près de la
votre
dame
maman de cœur.
Je vous parle d'un de qui je travaille, qu'il y a pas longtemps.
Vous êtes fille unique, Francine?
Non, j'ai deux sœurs.
Et alors, vous n'êtes pas proche de vos sœurs?
Alors, j'ai une sœur à Paris. Alors, ma sœur à Paris est très violente, très véhémente, comme mon père l'était à l'époque. Donc, il y a longtemps, j'ai rompu avec elle, parce que moi, je suis quelqu'un de foncièrement gentil. Ma sœur, elle tenait de mon papa, si vous voulez, elle a un caractère très entier, très, on va dire, très méchante.
Vindicative.
Quelques années, très malsaine, vous savez. Mm-hmm. Comme mon père, j'avais un père très malsain, très violent. Ma sœur est très, à Paris, est très malsaine, très violente. Donc j'ai arrêté un peu j'ai arrêté forcément la relation. Après, moi j'ai 62 ans, ma sœur à Paris, Isabelle, a 64 ans. Et j'avais une sœur de 66 ans qui habitait sur l'île, qui a fait des années de psychiatrie, qui a été violentée par mon père. Violée. Qui me l'a dit des années après, que j'ai pris à charge, le vilain petit canard de la famille. Les auditeurs vont me comprendre. Et je l'ai soutenue pendant des années. Elle était toute seule, sans contact aucun, parce que moi j'avais rompu les liens avec mon père. C'était un monstre, et ma mère indigne. Et j'ai soutenu ma sœur, qui est décédée en psychiatrie pendant des années, des années. Et moi, j'ai rien à faire. Au moins, j'ai la conscience tranquille. J'ai aidé ma pauvre sœur Brigitte.
Vous avez été son soutien. Mais elle ne s'en est jamais remise, votre sœur.
Jamais remise. La pauvre Brigitte, qui a eu des séquelles graves de son... Du viol avec mon père, je suppose. Elle ne me l'a pas dit franchement, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits dans cette famille sordide, parce que je fais partie d'une famille sordide, comme plein de gens qui m'écoutent ce soir. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. C'était Maxime Le Forestier qui l'avait dit.
Oui,
ça.
Tout à fait.
Et moi, j'ai fait mon parcours du combattant. Et moi, par contre, Valérie, je voulais vous dire une chose positive, parce que j'ai une voix positive.
Oui.
Dans cette histoire. Le peu d'histoire familiale que j'ai eue, j'ai pas connu mes grands-parents paternels, j'ai pas connu mes grands-parents maternels. Une histoire sordide.
Parce qu'ils étaient décédés? Ils étaient décédés quand vous êtes née?
Non, ils étaient vivants. Sauf que mon père très méchant nous a complètement éloignés. Isolé, il avait une histoire sordide avec sa famille. Et nous, on vivait, les trois filles, des coups, on s'appelait. notre nom de famille, on a vécu en vase clos. En vase clos, complètement, en ne connaissant personne, en étant toute petite, dans un contexte familial complètement sorti.
Une violence intrafamiliale très forte. Mais vous alliez à l'école tout de même,
gens, hein,
Francine.
Vous
alliez à l'école quand même.
Ah, j'allais à l'école. Et j'allais à l'école, et à l'époque, il n'y avait pas d'assistante sociale. J'étais tellement introvertie. Je peux même vous dire, Valérie, j'étais tellement introvertie qu'à l'âge de j'entrais en sixième à l'époque. Je suis née en 62, je suis entre guillemets vieille. J'entrais en sixième, j'ai fait pipi dans la classe, complètement introvertie, que j'avais tellement...
De peur des autres
Complètement, j'étais... on parle de... Comment on appelle ça maintenant que les jeunes se font maltraiter
D'harcèlement.
Harcèlement. Donc moi, j'étais harcelée.
Violentée à la maison et harcelée à l'école. Oui.
Harcelée à la maison et harcelée à l'école. Complètement harcelée. J'étais traitée de pucelle, et j'étais traitée de tous les noms. Et évidemment, à l'âge de 10 ans, vous imaginez, harcelée à la maison, que je disais pas un mot à la maison, et harcelée à l'école, c'était une période horrible de ma vie.
Aucun adulte n'est venu à votre secours, Francine. Aucun enseignant.
Aucun adulte. Aucun adulte n'est venu à mon secours. J'étais au lycée Guy Mollet à Arras, sans vouloir le nommer, et j'avais dizaines d'années, à un moment donné, j'ai fait pipi. J'osais même pas lever la main pour dire à mon professeur d'histoire.
Donc votre calvaire, Francine, a duré jusqu'à votre majorité? À quel moment vous avez quitté la maison?
Quand j'ai quitté la maison. J'ai vécu dans un grenier comme Anne Frank pendant un an. J'avais 18 ans. Et ma mère m'empêchait quasiment de partir parce qu'elle était frappée, elle était battue. Et je vivais recluse dans un grenier. Et les gens vont comprendre ou pas, c'est pas grave.
On vous amenait à manger Vous sortiez jamais de grenier?
Oui, elle m'emmenait en cachette à manger.
Vous étiez séquestrée?
Complètement, comme Anne Frank, entre guillemets, les gens vont comprendre à l'antenne. Et ma mère m'amenait à manger en cachette parce qu'elle voulait me garder à la maison, comme elle était battue, etc. Et j'étais la dernière, Brigitte, ma sœur aînée, elle avait été...
violée par votre père, oui.
Chassée par mon père, hyper violent à l'époque. Isabelle, qui habite à Paris maintenant, elle est partie de son propre chef, elle n'a pas eu trop de problèmes. Et puis moi, ma mère m'a gardée avec Anna.
Et comment vous avez réussi à sortir de ce grenier où vous étiez séquestrée?
Grenier, j'ai vécu un an, j'étais sous l'emprise de ma mère à l'époque. Il y avait mon père qui battait ma mère et ma mère me dit, Francine, tu peux pas, reste là. Et j'étais dans un grenier.
Reste caché, en fait.
Et elle m'amenait à manger dans mon grenier. Été comme hiver pendant un an, c'était horrible. J'avais un petit peu travaillé, j'avais fait un stage, j'avais passé mon bac, j'avais eu 10 fois du bac B, du baccalauréat B à l'époque, tant bien que mal. Elle m'empêchait de partir, elle me disait tu restes, me quitte pas, parce que j'étais la dernière.
Vous ne sortiez jamais de ce grenier, Francine?
Ah non. Je sortais jamais de ce grenier, sauf quand mon père il travaillait à la SNCF et je sortais comme une malheureuse un petit peu dans la rue pour prendre l'air. Et finalement, j'étais enfermée dans ce grenier pendant un an, comme Anne Frank. Et c'est pas peu dire que c'était comme Anne Frank. Je vais pas faire un roman parce que je sais pas si les gens vont se reconnaître dans mon histoire hyper malheureuse, mais c'est pas grave parce que je suis une battante et maintenant je m'en sors bien, hein, à mon âge avec mon histoire.
Et comment vous êtes sortie de l'emprise de votre mère qui vous séquestrait dans ce grenier, Francine? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous êtes partie?
Eh ben, comme à un moment donné je suis partie j'en pouvais plus. De cette histoire épouvantable. Et j'avais une sœur, en fait j'ai traîné pendant un an parce que j'avais ma sœur qui habite Paris actuellement, elle habitait Lille à l'époque, moi j'habitais à Arras dans le Pas-de-Calais, c'était pas loin, mais je rechignais à partir parce que j'avais que cette sœur-là et je savais très bien que cette sœur-là, et ça s'est avéré largement maintenant, que je m'entendais pas du tout avec cette sœur-là, donc j'avais pas...
Vous n'aviez pas où aller, en fait. Vous n'aviez pas où
voilà,
aller.
Voilà, je ne savais pas où aller. J'avais personne. J'avais personne ni non plus. On a vécu en vase clos. On a vécu en vase clos. On n'avait ni tante, ni oncle. Mon père avait fait le vide. Mon père, oui. C'était un monstre.
Vous n'avez pas pu vous sauver. C'est dans voilà, tous les sens du terme.